Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Une fonction essentielle de la vraie beauté est de donner à l'homme une secousse salutaire qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, à l'arrangement du quotidien, le fait souffrir aussi comme un dard. La citation n'est pas de quelques grands écrivains, mais de Benoît XVI. De prime abord, cinéma et spiritualité ne semblent pas faire nécessairement bon ménage. Difficile pour le grand public de nommer l'expérience de la séance du samedi soir comme une expérience spirituelle, voire religieuse. Mais difficile également pour les chrétiens de parler cinéma sans être taxé, parfois, de vouloir récupérer le 7e art ou de le moraliser. Alors, cinéma et spiritualité peuvent-ils faire bon ménage ? Voilà pour cette émission ce matin. Donc, cinéma et spiritualité peuvent-ils faire bon ménage ? Comme je l'ai dit en introduction, je reçois ce matin Sophie Beauchamp. Vous êtes religieuse Xavier et vous participez à un ciné-parole à Toulouse, tout simplement. On expliquera ce que c'est. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Claire de Gaujac, vous êtes également animatrice d'un ciné-parole, mais cette fois à Nice, qui s'appelle Ciné Azur. Bonjour.
Bonjour.
Paul Dima, vous êtes intervenant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales au sein de l'Institut catholique de Toulouse, sur des questions de cinéma, et vous animez également ce ciné-parole de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc que des gens fans de cinéma, d'une certaine manière, si je puis dire, et je vais tout simplement commencer, avant qu'on parle peut-être de ciné-parole, ciné-azur, etc., par parler avec vous, donc, 7e art. Paul Dima, comment vous nous diriez votre amour du 7e art, vous vient-il de tout petit? Est-ce que vous avez eu, comme parfois quand on lit un bon livre, un premier choc et c'est ça qui vous avait fait aimer le cinéma? Comment l'amour du cinéma est rentré un peu dans votre vie?
J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, même si tout petit. Je crois que le premier film que j'ai vu m'a créé des cauchemars, c'était 20 000 lieues sous les mers, je devais avoir 9 ans. Et c'était la première fois que j'allais au cinéma. Ça a été un peu violent, j'en ai fait des cauchemars à la suite. Mais je me suis rendu compte en même temps de la force de communication possible du cinéma. Après, j'ai bénéficié, dans le cadre de la paroisse, avec un jeune vicaire qui animait des ciné-clubs, et j'ai découvert qu'on pouvait justement entrer en dialogue avec les films qu'on voyait, et que ça nous disait plein de choses. Alors après, au lycée, je faisais partie aussi de ciné-clubs, etc. J'ai fait une formation de cinéma, de la réalisation aussi, et j'ai enseigné aussi le cinéma dans le cadre d'une réflexion chrétienne. J'ai fait une formation théologique, et j'ai passé mon mémoire de théologie en réalisant un film et en faisant une lecture théologique de ce film. Voilà.
Alors, des arts, il y en a beaucoup. Je sais pas, qu'est-ce que vous diriez de ce fameux 7e art, en fait? Qu'est-ce qu'il a peut-être de singulier? Quelles seraient ses caractéristiques, vous qui êtes un fin connaisseur de cet art, si vous deviez le mettre un peu au regard, non pas en comparaison des autres arts?
Alors, oui, il s'agit pas tant de comparer que de dire peut-être le spécifique. C'est que le cinéma est un art qui s'adresse à tout l'être humain, pas simplement à son intellect, mais aussi à son intellect. C'est-à-dire que quand on voit un film, on est pris d'une certaine façon par le film. On est embarqué dans une autre temporalité, on est embarqué dans une histoire. Le cinéma, un peu comme un roman, n'est pas un discours sur un thème donné. Il n'y a pas de thème au cinéma. Ça raconte une histoire et c'est en même temps un regard porté sur une histoire. C'est-à-dire que le cinéma, faut pas prendre le cinéma pour la réalité, et c'est pas péjoratif de dire ça, c'est au contraire le reconnaître comme une production artistique qui, à travers le visible, ouvre à autre chose, à une dimension.
Mais c'est un peu comme
porté
comme
par
les arts, certainement, parce que le
exactement, la peinture, c'est un art parmi les autres.
Voilà, c'est ça, la peinture, voilà. N'est pas aussi n'a pas pour fonction d'être d'abord réaliste ou
voilà. C'est un regard porté sur une scène pour la peinture, sur une histoire pour le cinéma.
Anne-Claire de Gaujac, sur cette première question, on fait un tour de table. Alors, je le ferai peut-être pas pour chaque question, mais vous, le 7e art, qu'est-ce que vous en diriez? Pour vous, qu'est-ce qu'il a de singulier ou de particulièrement touchant ou frappant?
Ce que j'observe, c'est que nous sommes tous ensemble, et c'est le plaisir partagé, en fait, d'éprouver ensemble des émotions qui nous emmène, malgré nous, on est dans le noir, et c'est un art qui est peut-être plus facile d'accès, parce qu'on a juste à se laisser faire par quelque chose qui... Il y a quelque chose de l'émerveillement.
Voilà,
on
est ensemble, et de fait, c'est probablement un rôle, justement, dans la proposition qui est faite de vos différents ciné-paroles. On y reviendra un peu plus tard. Alors, je me disais aussi, pour faire écho à l'introduction, cinéma et spiritualité, parfois, c'est vrai que on peut avoir quelques gênes ou quelques scrupules à essayer de faire un lien. Ça peut être pris comme une forme de récupération. Toujours est-il que les arts sont nés d'une certaine manière, enfin, sont nés, en tout cas, se sont développés aussi à la faveur du christianisme. Paul Dima, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors, l'art n'est pas né avec le Christ. Il lui précédait. Mais toujours est-il que le christianisme a contribué, en fait, au développement des arts.
Et tout particulièrement les arts visuels. Le christianisme est une des seules religions monothéistes à dire que l'image est un lieu théologique.
C'est-à-dire
que c'était un grand débat entre les adorateurs des images.
Les iconoclastes, c'est ça?
Alors, les iconoclastes, c'est ceux qui refusaient l'image la possibilité d'accord. de dire quelque chose de la foi chrétienne. Et les iconophiles n'étaient pas dans l'adoration, justement. Ils étaient dans un rapport de médiation. Et le christianisme est une religion de la médiation. C'est-à-dire que le regard porté peut ouvrir à la transcendance. Peut, c'est pas automatique. Ça dépend de la qualité, justement, de l'image qui est produite. Non pas une image à idolâtrer. Et je crois que l'expérience spirituelle chrétienne, c'est de quitter progressivement, par les textes, mais aussi par les images, nos fausses représentations de Dieu, et de vouloir mettre la main sur Dieu. Dieu échappe toujours aux images qu'on s'en fait. Et il y a donc un chemin spirituel dans cette confrontation à l'image.
Alors, pour faire écho à cette citation, commençons par cette citation de Benoît XVI que j'ai trouvée. Alors, c'est une citation qui date un petit peu, puisque c'était en 2009, à l'occasion donc du 10e anniversaire de la lettre de Jean-Paul II aux artistes, fameuse lettre publiée le 4 avril 1999. On en citera d'autres passages, je vais y arriver. Donc, Benoît XVI dit la chose suivante, je redis cette citation que j'ai trouvée de fait très, très belle, très parlante. « Une fonction essentielle de la vraie beauté est de donner à l'homme une secousse salutaire qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, à l'arrangement du quotidien, le fait souffrir aussi comme un dard. » Alors c'est vrai que de prime abord on se dit, tiens, c'est étonnant de la part de Benoît XVI, mais à l'écouter, en fait, la fonction de la vraie beauté, ça serait d'abord, en fait, de déranger en vue, quelque part, d'un déplacement un peu salutaire, enfin, si je dois résumer. Alors, quel écho ça trouve chez les uns et chez les autres? Est-ce que, Anne-Claire de Gaujac, comment vous réagissez à cette phrase de Benoît XVI? Est-ce qu'elle vous parle?
Elle me parle beaucoup. Le plus difficile, c'est de se laisser déranger par ce qu'on regarde et de commencer par regarder ce qui est en face. Et c'est là que ça peut être un dard. Ça peut nous obliger à sortir de notre petit ronron. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe dans le public en face de moi au cours des débats.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller au cinéma d'une certaine manière pour essayer de, comme parfois quand on lit la presse, en fait, pour que nos opinions soient confirmées ou nos sentiments. On peut y aller, en fait, en vivant ça comme une aventure intérieure, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Paul Dima?
Oui, tout à fait. Ce qu'on propose dans ces séances de ciné-club, peu importe comment elles s'appellent, c'est justement de se laisser traverser et mettre des mots sur le chemin qui s'est passé en nous en assistant ensemble à un film. Et je vois bien que, comme le disait Anne-Claire, que dans les débats qui suivent, on fait assez rapidement appel à comment on est à la fin de ce film. Qu'est-ce qui s'est passé en nous? Quelles questions se posent? Mais non pas des questions de connaissance, mais on est comment là? Et on s'aperçoit que même si on a tous vu le même film, chacun l'a vu de façon différente. Et ce qui est intéressant, c'est la confrontation au film. Est-ce qu'on a bien vu ce qui nous a été montré? Et la confrontation au regard des autres. Et je crois que dans cette circulation de réception, eh bien, il y a un sens, un chemin qui se fait. Et il y a des gens qui disent à la fin du débat, « Ah mais j'avais jamais vu un film comme ça ».
Voilà, parce que de fait, enfin, c'est vrai que l'art a cette fonction aussi de faire rentrer, en fait, dans des réalités, dans des univers qui sont absolument pas notre quotidien. Enfin, c'est aussi.
Tout à fait. Oui.
Alors, j'ai trouvé d'autres. C'est pas la course aux citations, mais je trouve qu'elles sont assez éclairantes et puis peut-être qu'elles peuvent permettre de progresser un peu dans notre propos. Cette fois, c'est le pape Paul VI. qui a eu cette phrase. Alors, c'est pas tout à fait, on va dire, la même incidence. Notre ministère est de prêcher, de rendre accessible et compréhensible. Donc, il parle évidemment du mystère des prêtres ou des personnes en charge, on va dire, dans l'Église catholique. Notre ministère est de prêcher, de rendre accessible et compréhensible et même émouvant le monde de l'esprit et de l'invisible, de l'ineffable de Dieu. Et dans ce domaine, vous êtes des maîtres, parlant aux artistes. Alors, peut-être pour essayer de faire la bascule. Je le disais en introduction, parfois, que ce soit le cinéma ou autre, le réflexe un peu de du grand public, c'est de dire « pas touche » quelque part. L'art est en lui-même sacré quelque part, et on n'a pas à essayer de mettre la main ou à l'instrumentaliser. Pour autant, pour un chrétien, en l'occurrence le pape, il dit aux artistes qu'ils ont, ils disent quelque chose presque malgré eux en fait du mystère de Dieu. Alors comment essayer de réconcilier les deux, Sophie Beauchamp, qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Je ne sais pas s'ils disent malgré eux, si, oui, ils peuvent dire malgré eux quelque chose du mystère de Dieu, mais toute réflexion du mystère de l'homme, d'une certaine manière, ouvre au mystère de Dieu. Ce que disait Paul tout à l'heure sur la médiation, l'incarnation aussi, le mystère de l'incarnation.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée?
Dieu s'est fait homme. Et c'est
en tout cas, nous, c'est ce que nous croyons.
C'est ce que nous croyons.
Les chrétiens.
Voilà, les chrétiens. Et d'une certaine manière, tout ce qui concerne l'homme, dans son humanité, peut ouvrir à la dimension de Dieu. Alors, bien sûr, il y a un regard de foi à avoir, mais le cinéma, dans la mesure où il est un récit, où il met en scène un récit de vie, donc ce qui concerne l'humanité, dans ses débats, dans ses questions, dans ses aspirations, dans ses espérances et ses désespérances aussi. Voilà. Il peut y avoir du coup un chemin de lecture, de foi, à travers un film qui... Alors c'est là où il y a le malgré eux.
Alors je rassure nos auditeurs, hein, après une première pause musicale, et tout au long de l'émission, ensuite on passera quelques films qu'on a choisis en essayant d'organiser ça un peu de manière un peu peut-être grossière. Paul Dima, qu'est-ce que vous direz là-dessus? Est-ce que tout le cinéma parle de Dieu? Parce que parfois chez certains chrétiens aujourd'hui, il y a comme une défiance aussi à l'égard de la culture ou du cinéma, se disant bon, moi je vais au cinéma, mieux je me porte. Enfin bon, je caricature un peu, hein, mais...
Non, bien sûr que non, tout le cinéma n'est pas de qualité. D'un point de vue écriture cinématographique, d'un point de vue respect du public, il y a des films qui sont assez manipulateurs et manichéens. Il y a les très bons et les très méchants, et il y en a qui utilisent même la trame narrative et la violence faite par les images pour embarquer le public, malgré lui, dans une thèse à démontrer, etc. Et ça, c'est de la manipulation. Je vais prendre un exemple très caricatural. Les dictatures ou les régimes totalitaires ont utilisé le cinéma à des fins de propagande, comme par exemple le régime hitlérien a transformé les juifs en rats. Et hélas, ça a très bien marché. Donc le cinéma peut être pervers. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la force des images.
L'art n'est pas en lui-même, et le 7e art n'est pas en lui-même,
voilà.
Vertueux, ou je sais pas comment
dire. Non, il demande à être. Quelle est la qualité du regard proposé par l'artiste? Si elle méprise l'humain, si elle condamne comme ça de façon brutale, ça ne peut pas être un lieu de respect et de regard qui a du sens.
Alors, ce que je propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale, et puis après, vous nous parlerez un petit peu de ciné-parole et ciné-azur, et puis on aura quelques films qui sont passés dans vos différents, peut-être pas tous, mais dans vos différents ciné-clubs. Je conclurai cette première partie par cette citation, encore une autre, vous allez me dire, mais cette fois, c'est Jean-Paul II dans La Lettre aux Artistes, qui dit « En tant que recherche du beau, fruit d'une imagination qui va au-delà du quotidien, l'art est par nature une sorte d'appel au mystère, même quand il scrute les profondeurs les plus obscures de l'âme, ou les aspects les plus bouleversants du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voie de l'universelle attente de rédemption. » Et le pape de conclure, la beauté est la clé du mystère et le rappel au transcendant.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission ce matin, donc cinéma et spiritualité peuvent-ils faire bon ménage, avec autour du plateau Sophie Beauchamp qui est religieuse Xavier et participe à Ciné-Parole à Toulouse, Anne-Claire de Gaujac qui anime un Ciné-Parole à Nice qui s'appelle Ciné-Azur, Ciné-Club, je ne sais pas si le Ciné-Parole est tout à fait le terme usité pour tous, Paul Dima qui est donc intervenant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales qui fait partie de l'Institut catholique de Toulouse sur les questions de cinéma et qui co-anime aussi ce Ciné-Parole à Toulouse. Alors, on le disait pendant la pause musicale, en écho à vos propos, Anne-Claire de Gaujac, très éclairant, c'est un art en fait que l'on voit ensemble, et qui n'est pas sorti du cinéma en étant frustré d'avoir vécu en fait un moment très très fort, riche en émotions, en interrogations, etc. Et puis derrière, parfois de se retrouver un peu court, on se dit bon bah ça t'a plu, oui, non, j'ai aimé, j'ai pas aimé, puis on va se coucher. Et la frustration est parfois grande alors qu'on a vécu une expérience, c'est pas forcément spirituelle, une expérience humaine très forte. C'est semble-t-il une des choses qui vous a un peu mis en chemin, Paul Dima et vous autres, pour créer ces ciné-paroles. Alors commençons par Toulouse, avec vous Paul Dima.
Oui, effectivement, c'était un peu à la base du projet de dire quel dommage quand même. On a vu ensemble des choses, ça s'arrête, et puis on dit rien, on s'en va. Au mieux, sur le trottoir, on entend « t'as aimé ?»« Bon, oui, ou... » Et quand on dit, quand on reste à ce niveau-là, on parle de soi, mais pas du film, on parle de ses goûts, de ses préférences, mais on n'a pas de confrontation et à l'œuvre et à soi-même. Or, on voit bien que dans les débats qui suivent, il y a souvent déjà, d'ailleurs, un temps de silence à la fin d'un film. Quand il est de qualité, quand il est dense, il y a besoin d'une respiration, et je dis respiration à dessein, spirituelle, pneuma, c'est ce qui donne du souffle. Et des fois, c'est un souffle qui est un peu oppressé, qui est un peu... Mais justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on a reçu ?
Est-ce que vous avez une... Alors déjà, expliquez-nous, Ciné-Parole, en quoi ça consiste ? Peut-être de manière très prosaïque, je sais pas, vous réunissez tous les combien, depuis quand ça existe ? Et puis après, est-ce que vous avez une espèce de méthodologie, en fait, quelque part, pour aider les téléspectateurs, je sais pas comment on dit,
les
cinéphiles à partager ?
Alors... ça existe depuis notre première séance, c'était le mois d'octobre dernier, et on a rencontré avec Louis-Marie Solaire qui
faut rappeler donc que Louis-Marie Solaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le monsieur cinéma de Radio Présence qui produit une émission qui s'appelle N'oubliez pas l'ouvreuse.
Voilà. Et avec Louis-Marie, on s'est dit, mais ça serait intéressant de faire une proposition de ciné-club en allant ailleurs que chez nous, c'est-à-dire qu'on a été rencontrer le directeur du cinéma ABC en disant voilà...
Un cinéma indépendant donc.
Un cinéma art et essai, donc qui choisit une qualité de film. Et on dit voilà qui on est. On est un groupe de chrétiens qui souhaitent proposer des temps de partage de ciné-club, type ciné-club, ouvert à tous. Bon, nous, on invite nos réseaux, enfin ceux qu'on connaît, mais en même temps, on se situe dans le cadre de la programmation du cinéma ABC, donc on sort de chez nous et on dit aux gens, ce soir, il y aura, pour ceux qui sont pas au courant, il y aura un débat après le film, vous restez si vous voulez, vous partez si vous voulez, hein, personne. Et il y a des gens qui restent et qui disent, mais vous m'inscrivez sur vos listes, parce que moi, ça m'intéresse ce qu'on fait là. Donc vous voyez...
Alors après, est-ce qu'il y a une méthodologie quelque part ? Donc c'est tous les mois, ça a commencé donc au début de l'année, au mois d'octobre ?
Oui, c'est tous les mois avec deux séances, une en après-midi et une en soirée sur le même film. La méthodologie, c'est un petit peu de permettre un va-et-vient permanent entre ce qu'on a vu et ce que ça nous inspire. Et c'est en même temps de proposer une sorte de corps à corps, de lecture attentive de l'œuvre qu'on a vue. Parce que souvent, on a la tentation de partir ailleurs ou de parler du film qu'on aurait aimé faire autrement et tout. On dit non, ce qu'on a vu, c'est quoi ? Et repartir de différentes scènes, et ça va très très loin.
Alors, ce que je vous propose, c'est que après que Anne-Claire de Gaujac en fait nous ait dit quelques mots sur Ciné Azur, c'est qu'en fait on fasse l'exercice avec quelques-uns des films qui ont, pour certains, déjà été projetés dans le cadre de ce ciné-club, si je puis dire. Anne-Claire de Gaujac, est-ce que vous voulez, enfin évidemment, vous allez compléter les propos de Paul Dima, puisque vous c'est à Stanis et c'est chacun son ciné-club. Qu'est-ce que vous diriez peut-être sur la manière dont ça fonctionne et sur la jeunesse de cette aventure?
Alors, déjà, Ciné Azur, c'est beaucoup plus ancien, ça a été fondé en 2008, et c'était fondé par deux amies qui étaient toutes contentes de se retrouver, sachant qu'elles avaient travaillé dans les années 80, toutes les deux, dans le cadre du jury œcuménique au Festival de Cannes. Donc, au départ de Ciné Azur, il y a une amitié et un plaisir partagé qui avait envie d'être partagé avec encore plus de monde. Je crois que c'est important, cette notion de plaisir. Alors, il s'agissait de Geneviève Roux, qui est Xavier, et de Marie-Nicole Courboulès, qui est la première personne qui s'est occupée d'un stand du jury œcuménique au Festival de Cannes, au marché du film. C'est le seul stand qui ne soit pas marchand, qui soit juste un stand d'opinion.
Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc ce prix-là que vous venez de citer, est-ce que vous pouvez redonner le nom de ce prix? Parce que je perds ma fiche. Pardon, le prix œcuménique du Festival de Cannes. Voilà, il y a un prix, en fait, chaque année à l'occasion du Festival de Cannes, qui est décerné, voilà, on va dire, par les chrétiens. Pardon, parenthèse refermée.
Et en ce moment, il y a essentiellement une participation des catholiques et des protestants. Donc, nous prions ensemble, et le jury est constitué de 6 membres, 3 catholiques et 3 protestants.
D'accord.
Voilà.
Précision faite. Donc, Ciné Azur.
Ciné Azur. Alors, nous fonctionnons un petit peu comme Paul Dima l'a partagé, c'est-à-dire nous avons un ciné-débat par mois, pour le même film, une séance le lundi matin et la deuxième séance le mardi soir, ce qui permet de toucher un public qui a des contraintes différentes. Nous sommes associés avec un cinéma de la ville, le cinéma Le Mercury, qui est aussi un cinéma d'art et d'essai, qui est le plus ancien cinéma de la ville, mais qui est actuellement géré par le Conseil Général. Donc il nous fallait, pour être accueillis dans ce cinéma, être adossé à une association loi 1901.
Alors pardon, excusez-moi, parce que le détail, à la limite, on vous réunissez, ça fait plus longtemps que Paul Dima, enfin comment dire, que le ciné Parole de Toulouse, que ça existe. Ce que je vous propose, c'est surtout maintenant qu'on se lance dans l'aventure et que peut-être on essaie de voir à la lumière de films qui ont été projetés peut-être dans l'un ou l'autre, la manière dont vous y prenez. Alors on va commencer avec le premier film qui est donc Moi, Daniel Blake, de Ken Loach. On va écouter la bande-annonce et puis après je vous laisserai réagir les uns les autres.
Bonjour Monsieur Blake, je vais vous poser quelques questions pour établir si vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité. Pouvez-vous marcher plus de 50 mètres?
Oui.
Pouvez-vous lever chacun de vos deux bras comme pour mettre quelque chose dans votre poche?
Oui, je peux vous poser une question. Vous êtes médecin? J'ai simplement fait une sérieuse attaque. D'après ce que m'a dit mon médecin, je ne suis pas censé retravailler pour le moment.
Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant 4 semaines, vos versements seront gelés.
Il y a forcément une erreur. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. Bien, je veux faire appel. Vous devez postuler en ligne, monsieur. J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie.
Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non.
Pas comme ça?
Non, pas comme ça.
Je me vois tourner en rond sans avancer.
Je vous demande
de vous en aller, ça suffit. Ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie.
C'est vous qui faites une scène, d'accord?
Nom de Dieu, que je fasse?
Qui est le prochain à passer?
C'est moi.
Ça vous dérange si cette jeune mère s'inscrit avant vous?
Non,
ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prier de sortir tout de suite.
C'est une vaste blague tout ça, non? Chercher un travail qui n'existe pas. Tout ça est totalement humiliant. Il n'y a rien dont tu puisses avoir honte. Toute seule ici avec deux gosses, t'as fait des miracles.
J'en ai vu beaucoup d'autres. Des gens vraiment bien. Ils ont fini à la rue. Vous risquez juste de tout perdre.
Je ne vais pas laisser tomber. Quand c'est votre dignité que vous êtes en train de perdre, vous êtes foutus.
Voilà, donc moi, Daniel Blake, donc de Ken Loach. Alors, je vais dire quelques mots de l'histoire, et vous compléterez, et puis après, vous nous direz peut-être à quel type de partage ça peut, ça a pu donner lieu ou de réflexion dans vos ciné-clubs. En tout cas, c'est un film donc, qui a été projeté dans le cadre de Ciné-Parole à Toulouse. Donc c'est un film de Ken Loach. Ken Loach qui est connu donc pour un certain nombre de films très engagés, on va dire sociaux, connu comme un réalisateur voilà de gauche, voire parfois considéré un petit peu plus encore plus à gauche. Toujours est-il que c'est un cinéaste donc, qui entre autres a déjà reçu la Palme d'Or pour Le Vent se lève, qui donc en 2016 a reçu également la Palme d'Or pour ce film. Moi Daniel Blake, c'est l'histoire donc d'un homme tout simplement qui est au chômage, donc un ancien charpentier qui se retrouve un peu dans les méandres de la crise et puis un peu de l'univers kafkaïen pour faire très court de l'univers kafkaïen des demandeurs d'emploi. Voilà, et puis se noue donc une amitié avec une femme qui est en difficulté avec son enfant, et puis là, ça va être le récit de cette aventure et de cette rencontre. Comment vous compléteriez peut-être, Paul Dima, ce rapide tableau, et puis après quel type de réflexion et de partage ça a donné lieu?
Alors dans le scénario du film, au départ, cet homme-là est en arrêt de travail pour un problème cardiaque. Et avec le système britannique qui a été mis en place pour accompagner les gens qui n'ont plus de travail, on lui demande de reprendre le travail, alors qu'il a, il est en pleine situation contradictoire. Alors ce qui est intéressant dans ce film, et le regard que porte Ken Loach, c'est, on voit comment un système kafkaïen, comme vous disiez, élimine ce dont on ne veut plus. Et en même temps, ce film pourrait donner des raisons de désespérer de ce monde inhumain qui broie pour des raisons économiques. Et en même temps, c'est un formidable regard sur la, on dirait résilience pour en prendre un mot moderne, mais plus que ça, sur comment des personnes fragilisées, exclus, en situation de rejet, deviennent solidaires et s'entraident pour plus que survivre, pour vivre. Et on sent dans cette lutte-là de cet homme et de cette femme une dignité humaine tout à fait remarquable. Donc c'est un film qui condamne un système qui exclut et qui en même temps reconnaît la valeur de l'amour vécu par ces personnes.
Alors Sophie Beauchamp, plusieurs questions. Pourquoi avoir choisi ce film? Et puis ensuite, à quel type d'échange, enfin quel souvenir vous avez des échanges qui ont eu lieu avec les cinéphiles?
Alors le choix du film, il dépend déjà de la programmation qui est proposée par l'ABC.
Fait, oui.
Donc voilà, on est contraint
par... répondre rapidement à cette question.
Voilà. Donc, alors après, on a un choix quand même à faire. Et comme il était primé au Festival de Cannes, ça pouvait être intéressant. Et Ken Loach, c'est quand même une référence aussi. Alors par rapport au débat, le risque aurait pu être, justement, en sortant d'un film comme moi, Daniel Blake, d'en rester à la dimension, entre guillemets, politique. On va, oui, c'est tous les mêmes, le système est, excusez-moi l'expression, pourri.
Voilà, c'est parfois les critiques qu'on a pu lire, voilà. Entre autres sur ce livre de Ken Loach.
Oui,
enfin, sur
et
ce
du
film,
coup, donc, de passer à côté de ce que soulevait Paul, de la dimension humaine, fraternelle de ce film, d'espérance aussi, de la beauté de cette relation entre Daniel Blake et cette jeune femme et ses deux enfants-là qui sont vraiment dans la galère. Et de voir combien autour de ce couple, qui n'en est pas un, mais voilà, ce qui se passe au niveau de la relation, de l'espérance de vie, on y croit encore, il y a une force dans ce film. Et du coup, voilà, le débat, essayer d'amener les personnes à ce regard-là, et non pas simplement au regard qui est important en soi aussi, hein, au niveau sociétal, bien sûr. Mais ne pas se limiter à ce regard-là.
Alors est-ce que c'est le début d'un regard spirituel? Qu'est-ce que vous diriez, Paul Dima, d'une certaine manière?
Oui, parce qu'on découvre dans la trame même de l'histoire et la façon dont elle est filmée, la dignité humaine et une dimension spirituelle, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Et y compris dans la détresse et tout ça, on voit comment ils se soutiennent, comment ils grandissent en humanité, comment C'est très beau. Et là, il y a un enjeu spirituel très fort. Hein.
Voilà, vous disiez donc qu'il avait reçu la mention spéciale du jury œcuménique du Festival de Cannes.
Tout à fait.
Jury dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je ne vous oublie pas, Anne-Claire de Gaujac. On va écouter un autre extrait, cette fois donc, d'un autre film qui s'appelle Juste la fin du monde, qui a été projeté également à Toulouse. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous me direz. Je vous laisserai réagir après. Alors, ce n'est pas un extrait, c'est la bande-annonce.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien, depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Ils fermeraient les yeux sur les erreurs. Ou ils me reprocheraient tout, ne me pardonneraient rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs, qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Voilà, juste la fin du monde, donc de Xavier Dolan. Xavier Dolan. Alors Louis-Marie Soler m'a aidé à préparer cette émission. Je rappelle donc qu'il a monté, enfin il vous accompagne dans cette aventure du Ciné-Parole à Toulouse. Donc c'est un peu le monsieur cinéma de la radio, donc qui produit cette émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Donc il m'a dit que Xavier Dolan c'était un peu le petit génie, le petit surdoué donc québécois qui dès son premier film J'ai tué ma mère donc a connu un grand succès. Et là donc c'est un film qui en tout cas a été largement primé puisqu'il a reçu donc la Palme d'Or en 2016. Il a été également primé au César, entre autres celui il a eu le prix du meilleur réalisateur et il a eu aussi donc le grand prix du jury œcuménique du Festival de Cannes. Donc c'est l'histoire d'un homme d'un certain âge qui est malade, qui va mourir, qui a pas vu sa famille depuis 12 ans et qui en fait débarque dans sa famille. Et moi je ne l'ai pas vu, mais Louis-Marie Soler m'a dit, c'est à l'image de cette critique, c'est une espèce de traité de clinique, une espèce de folie familiale, enfin en tout cas d'une manière d'essayer de se retrouver sans arriver jamais à réellement à se rencontrer ou à se parler. Alors Anne-Claire de Gaujac, est-ce que par le plus grand des hasards vous avez vu ce film? Est-ce que c'est un film dont vous avez parlé dans le cadre de votre Ciné Azur? Ou est-ce que je redonne la parole à Paul Dima et on vous donnera la parole un peu plus tard dans l'émission?
Alors j'ai vu le film, mais nous ne l'avons pas choisi pour Ciné Azur parce que dans la programmation du Mercury ce mois-là, nous avons préféré retenir Réparer les vivants.
Voilà. D'accord, alors qu'est-ce que vous diriez de ce film, vous qui l'avez vu, peut-être pour vous, qu'est-ce qu'il a de marquant et en quoi on peut y lire des choses à l'image de ce qu'on s'est partagé dans la première partie de l'émission,
quelque chose qui parle de l'homme le plus. Profondément touché par le regard très humain et très empathique que le réalisateur pose sur tous ses personnages. Aucun n'est vraiment méchant, même le grand frère apparemment violent et grossier et vulgaire est quelqu'un qui est filmé avec beaucoup de tendresse. Les gros plans sont là pour beaucoup, à la fois pour isoler chaque personnage dans une image, donc ça montre bien, simplement par la façon de filmer, la solitude de chacun, et en même temps, c'est presque comme des caresses, ces gros plans. Donc voilà, c'est ça qui m'a le plus touché.
Paul Dima, donc c'est pas vous qui l'avez choisi, j'ai compris maintenant, mais qu'est-ce que vous diriez sur ce film ou à quel type d'échange ça a donné lieu pour illustrer cette thématique du jour?
Ce qui est revenu beaucoup au cours de l'échange, je vais reprendre des propos qui ont été dits, mais pour dire ce qui s'est partagé, c'est les spectateurs ont été très marqués par ce mélange de violence et de désir éperdu en même temps d'arriver à communiquer. Et dans une famille qui est avec une histoire compliquée, des personnages un peu abîmés, enfin avec un désir d'arriver à se rencontrer et qui n'aboutit pas. Alors en même temps, c'est les deux. C'est et la difficulté d'arriver à parler dans le cadre de sa famille avec tout le passé qu'elle a, tous les accidents de son histoire. Et puis en même temps, eh ben des fois, malgré les efforts qui sont faits, ça clash, quoi, ça part de travers. Mais ça dit les deux à la fois. Il y a au cœur de l'homme un désir irrépressible de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir. Et puis, eh ben des fois, c'est extrêmement ardu.
Sophie Beauchamp, qu'est-ce que vous diriez? Et puis, même question, c'est pas du tout pour tirer ces films. Tirer la couverture à moi, hein, mais quelle lecture peut-être un peu spirituelle on peut en faire?
Alors déjà sur le film en lui-même, ce qui m'avait assez marqué, c'est il y a une ambiance très tendue et on le sent.
Ils s'engueulent tout le temps, il paraît.
Oui, alors enfin à la fois soit ils s'engueulent, soit ils n'arrivent pas. On sent qu'il y a un désir, mais qui ne franchit pas la porte. Et donc ça fait une ambiance d'orage. Et on le sent vraiment. D'ailleurs, à un moment donné du film, l'orage éclate. Mais voilà, la force du cinéma aussi, c'est on entre dans le temps de l'autre. Et après, on en sort, bien sûr. Mais on entre dans ce temps-là.
Voilà, et si on devait, faire une lecture un tout petit peu plus spirituelle, vous diriez quoi? C'est en quoi le fait que ce soit des chrétiens comme vous qui aident ces gens à partager peut aider peut-être à mettre en relief quelque chose de particulier sur ce film?
Il y a peut-être quelque chose au niveau de la parole, justement. Voilà, la parole qui essaie de se dire et qui n'est pas accueillie. Alors, on ne va pas faire de parallèle
sur le film de Xavier Dolan.
Oui, puis de parallèle trop rapide et qui ne serait pas très juste, mais il y a quand même quelque chose. Pour moi, spontanément, il y a quelque chose du prologue de Jean qui se dit dans ce film, ou en tout cas qu'on peut reconnaître. La parole est venue, la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Alors, d'une certaine manière, ne l'ont pas entendue et ne l'ont pas non plus éteinte. Mais il y a les deux. Voilà. Alors, voilà, ça c'est une lecture tout à fait personnelle qui peut ouvrir à une dimension spirituelle. Mais ça, c'est voilà, la dimension spirituelle, elle est aussi, on l'accueille avec ce qu'on est.
Bien sûr. Hein. On va faire une deuxième pause musicale, et puis pour le temps qui nous reste, on va parler encore d'un ou deux films qui, eux, peut-être à la différence de ces deux-là, peuvent aider à rentrer plus explicitement ou plus rapidement dans un dialogue avec les téléspectateurs, avec les cinéphiles, sur une thématique spirituelle ou religieuse.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission, donc ce matin, cinéma et spiritualité, peuvent-ils faire bon ménage? Je vous représente pas nos invités parce que le temps presse. Voilà, ces émissions cinéma, j'imagine toujours qu'elles sont plus longues qu'elles ne le sont. Et j'aimerais qu'on parle encore donc au moins d'un film, en l'occurrence donc il s'agit de Marie Heurtin, donc que vous avez diffusé, vous, Anne-Claire de Gaujac, dans le cadre de Cinazur. Je précise aussi qu'on vous a invité, on ne couvre pas, Nice est loin de Toulouse, mais c'était pour illustrer le fait qu'il y avait des expériences comme ça qui se montaient un petit peu partout en France. Je propose qu'on écoute donc la bande-annonce de Marie Heurtin, on parle et rapidement de l'histoire de ce film et puis de l'écho que ça a pu trouver chez les uns et chez les autres.
Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme. Une âme toute petite, toute fragile. Une âme emprisonnée. Mais une âme que j'ai vue briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter?
Ensemble.
Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu?
Et comment vous y prendriez-vous?
La langue des signes.
Mais elle est aveugle.
Je lui ferai les signes dans la main.
Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement racornie.
Couteau. Couteau. Couteau.
Maman!
Mais là, elle signe le mot couteau, ma mère.
Et avec vos problèmes de santé...
Mes poumons causeront certainement ma mort, mais enfin d'ici là... Il faudrait terminer ma tâche avant de quitter ce monde. Elle vous dit qu'elle est contente. Et qu'elle vous aime. Je suis tellement heureuse. Elle est ma joie. Elle est la fille de mon âme. La lumière de ma vie.
Voilà donc Marie Heurtin. Alors on me fait signe qu'il ne reste pas beaucoup de minutes d'émission. Je suis désolé auprès des auditeurs et puis de vous, mes invités, parce que j'ai pas forcément hyper bien calculé cette émission, mais c'est pas grave, comme ça nous donnera l'occasion de faire d'autres émissions. En deux mots, c'est donc l'histoire d'une religieuse qui accueille une jeune fille qui est complètement enfermée en elle-même, qui est donc aveugle et sourde. Et qui petit à petit, à force de patience et d'amour, va réussir à aider cette jeune fille en fait à se reconnecter au monde et aux autres et à reprendre goût à la vie. Voilà. Alors là, évidemment, il y a une explicitation de la foi chrétienne, parce que tout simplement, un des personnages principaux est une religieuse. Qu'est-ce que vous diriez les uns les autres? On va commencer avec vous, Anne-Claire de Gaujac. Je sais que vous avez projeté ce film dans le cadre de Cinazur. Pourquoi ce film et qu'est-ce que vous en diriez?
Pourquoi ce film? Pour quelque chose de tout à fait anecdotique, qui est que l'objet du film est tiré d'un livre de Louis Arnoux, qui se trouve être le grand-père de Marie-Nicole Courboulès, qui est l'une de nos cofondatrices. Ce qui fait qu'elle avait énormément de souvenirs personnels à partager à propos de cette histoire. Le deuxième détail, pas amusant du tout, mais vrai, c'est qu'il devait être projeté le 12 et le 13 janvier 2015. Il a fallu reporter les séances en raison des attentats qui venaient d'avoir lieu. Et que c'était pas si étranger que ça à l'objet du film, parce que il s'agit d'impossibilité de communiquer. Et dans ce cadre-là, le film pouvait montrer combien c'est important de combattre pour rompre les enfermements, pour ouvrir les portes. Et donc il y a eu un parallèle très fort entre l'actualité et l'objet du film qui a beaucoup marqué les débats. Et la fin du film, avec cette prière magnifique dans un cimetière où la caméra prend les airs, là il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la transcendance qui a permis de respirer après tout ce que nous venions de vivre à ce moment-là.
Ouais, donc c'est pareil hein, de diffuser un film comme ça, là on voit que tout de suite, évidemment, il y a comme un effet miroir de ce film en fait qui aide à prendre conscience de ce qu'on vit et à le conscientiser ou à le dépasser. Paul Dima, qu'est-ce que vous diriez sur ce film?
Oui, c'est très intéressant de voir cette rencontre entre une œuvre et un moment donné et qui renvoie les gens à revisiter leur propre histoire à eux. C'est-à-dire que quand on rentre dans le récit En plus, c'est une histoire à partir d'une histoire vraie. Quand on rentre dans le récit proposé par le cinéaste, on rentre aussi dans une relecture de sa propre vie, c'est-à-dire que ça vient nous interpeller, nous inviter à peut-être des déplacements, à un accueil, à une transformation de notre façon de regarder, de vivre.
Et là, en l'occurrence, sur ce film, qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas, enfin, là, vous ne l'avez pas projeté dans le cadre de Ciné-Parole, mais...
Je l'ai projeté avec des lycéens qui ont été très touchés par qu'est-ce que ça veut dire faire grandir l'autre? Et c'est une question qui les travaille à leur étape d'adolescence. Et ils ont été très touchés par la démarche de cette religieuse qui s'engage pour sortir de l'isolement, cette jeune ado.
Alors Sophie Beauchamp, il y a des œuvres comme ça, alors elles sont pas légion, hein, mais qui tout d'un coup, on va dire, peuvent aider aussi à rentrer en dialogue avec nos contemporains pour un dialogue de foi, en fait, hein, ou s'interroger sur l'existence de Dieu et autres. Alors il y a un autre film, évidemment, dont on voulait parler, mais on n'a pas eu le temps, c'est « Des hommes et des dieux », donc de Xavier Beauvois, qui a été primé aussi au Festival de Cannes, qui a connu un succès considérable. Qu'est-ce que vous direz sur ce film, et en quoi, de temps en temps, ces films sont plus qu'intéressants, permettent d'aborder, pour le coup, de se poser ensemble la question de Dieu?
Donc sur le film des hommes et des dieux.
Marie Hurtin.
Alors moi je faisais le parallèle avec celui dont on parlait avant, donc juste avant la fin du monde, là, de Xavier Dolan, où là il y a eu une impossibilité d'accéder à la parole, et il y a eu combat. Et dans le film de Marie Hurtin, alors que cette jeune fille est sourde, aveugle, donc on pourrait se dire l'impossibilité, elle est majeure, ça passe par un combat, mais il y a une... Là, elle accède, il y a une libération et elle accède à une forme de parole et du coup qui la rend vivante. Et effectivement, le dernier tableau qui est au cimetière, alors on pourrait se dire ça parle de mort, et ben non, ça parle de vie.
Voilà, Ciné-Parole. Donc, en tout cas, c'est en parlant de ces films aussi qu'on apprend à, si j'ai bien compris, hein, à comprendre quel écho ils trouvent en nous, et puis peut-être aussi à se découvrir et à comprendre aussi que quand on va au cinéma, en fait, on fait du chemin. En fait, on est assis, mais on fait du chemin et on le fait ensemble. Alors, Ciné-Parole Toulouse pour finir. Les prochains rendez-vous, c'est donc le jeudi 30 mars à 14h30 et le vendredi 7 avril à 20h30. Jeudi 30 mars à 14h30, vendredi 7 avril à 20h30, donc au cinéma ABC à Toulouse, pour le film Sage-Femme, où vous donne rendez-vous donc Paul Dima et ses compères. Vous voulez ajouter quelque chose, Paul?
Non, c'est très bien.
Tout va bien. Merci beaucoup d'être venu parler avec nous, donc cinéma. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Voilà, en tout cas, cinéma et spiritualité font bon ménage. La preuve est faite. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.